Rencontre avec sur LFO Radio
du lycée René Cassin d'Oslo.
I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created.
Bonjour et bienvenue sur LFO Radio. Aujourd'hui, nous, la classe de terminale, avons le plaisir de recevoir le dessinateur et auteur Julien Bergeau, aussi appelé Jules. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Alors, Julien Bergeau, dit Jules, est un dessinateur de presse, un auteur de bande dessinée, professeur agrégé d'histoire, entre autres chinoise à l'université, c'est ça ?
Vous me l'apprenez, oui.
Né en 1974 en banlieue parisienne, Jules dessine depuis un très jeune âge et il a publié plusieurs ouvrages que nous connaissons très très bien ici au lycée français d'Oslo, tels que Silex and the City, La planète des sages, 50 nuances de grec et beaucoup d'autres ouvrages. Alors Jules, il commente l'actualité version préhistorique dans Silex and the City, qui a même été adapté en série sur Arte, ce qui est super, franchement. Et Jules, qui était déjà venu il y a 7 ans, il est de retour et nous en sommes ravis. Alors, je vous présente Sarah, qui va animer la première séquence de notre rencontre avec vous, que nous avons appelée « L'artiste et son art ». Bonjour Sarah.
Bonjour Sonia et merci. Bonjour monsieur.
Bonjour, bonjour.
D'abord, nous aimerions donc vous poser quelques questions à propos de votre travail de dessinateur et d'auteur. Dans des métiers créatifs comme le vôtre, on est peut-être plus libre de choisir une manière personnelle de travailler que dans d'autres professions. Et nous sommes curieux de savoir ce qui vous motive vos choix à vous. Je vous présente Marina qui a une première question pour vous. Bonjour Marina.
Merci Sarah. Bonjour monsieur. Vous avez commencé tôt le dessin, vous avez rencontré un succès précoce en recevant le prix Concours Jeunesse au Festival d'Angoulême. Et vous ne semblez pas avoir cessé le dernier depuis. Pourquoi le dessin et qu'est-ce que dessiner vous donne d'un point de vue personnel ?
Ben moi j'ai toujours dessiné depuis que j'étais en maternelle, comme la plupart d'entre vous, tout le monde dessine. Et puis à un moment quand on commence à apprendre à écrire et à lire, on laisse tomber un peu le dessin à la plupart des gens. Et puis les gens qui sont passionnés par ça, ben ils continuent. Alors moi j'ai continué, c'était un petit peu une deuxième nature, j'ai jamais réfléchi à ça. Puis de la seconde où je me suis rendu compte qu'on pouvait vendre ces dessins et en faire un métier, je me suis dit que c'était quand même pas mal, parce que j'étais brièvement prof, et vous en connaissez des profs, vous voyez à peu près le genre de boulot que c'est. Entre être chez soi, faire des bandes dessinées, se coucher, se lever à l'heure qu'on veut et faire marrer les gens, ou être prof, en fait, j'ai choisi le truc le plus ennuyeux, comme vous devinez. Mais en tout cas, non, c'est sûr que moi, ça me permettait... J'ai un tempérament un petit peu angoissé. Par exemple, là, je ne sais pas pourquoi, quand je suis à Oslo, la nuit, ben, je me mets à tousser. En fait, alors, je ne sais pas pourquoi je tousse et du coup, je suis angoissé. Alors, le seul moyen de me rendormir, c'est que je me lève. Là, cette nuit, j'étais en caleçon. J'ai rallumé les lumières vers 1h du matin et j'ai fait 1 heure de dessin, parce que je suis en retard aussi pour un certain nombre de dessins à livrer. Et puis, d'un coup, ça allait beaucoup mieux et j'ai pu m'endormir. En fait, c'est aussi quelque chose, parce que c'est du côté du dessin d'humour, ça permet de mettre à distance toutes les angoisses des choses du monde, aussi bien pour soi-même qu'en général. Et je pense que beaucoup de gens... Moi, j'ai une formation d'historien, mais même peu importe, quand on regarde autour de soi, beaucoup de choses sont un petit peu terrifiantes, hein, à l'échelle du monde, de la planète, puis même de la société immédiate qui nous entoure. Et on a un sentiment d'impuissance, et puis on a un sentiment aussi d'être, je dirais, sous le feu de plein d'injonctions et d'obligations qu'on nous demande d'assumer, aussi bien les familles que la société en général. Il faut qu'on fasse les choses de telle ou telle façon. Ce truc-là, c'est parfois un petit peu étouffant pour tout le monde. Moi, le dessin, ça me permet de regagner un peu de liberté par rapport à ça. Donc, c'est une des raisons, probablement, qui fait que je continue à faire ça.
Merci.
Je suis un très mauvais skieur, je ne sais pas tirer à l'arc, donc il fallait bien faire un truc.
Merci Marina. Je vous introduis maintenant Kali.
Merci. Bonjour.
Bonjour.
Dans quelle mesure vous définiriez-vous comme un artiste et qu'évoque ce terme pour vous ?
Moi, j'évite de me définir, je laisse les gens me définir à ma place. Pour moi, ce qui est important, c'est d'être, de me trouver à la place où je dois être. C'est-à-dire, au fond, qu'est-ce qui est important pour moi depuis le début? Est-ce que finalement, je vis une vie qui ne serait pas tout à fait la mienne, un peu par convention ou par la force des choses? Ou est-ce que finalement, ce que je fais, bah, c'est là où je dois être, c'est ma place? Souvent, je me pose cette question-là. Et puis, en fait, vous... Voilà, vous allez commencer d'autres études, probablement à habiter ici ou ailleurs, faire des choix. Et puis, il y a énormément de choix qu'on fait de manière un peu aléatoire, un peu par hasard ou un peu forcé, où on a l'impression qu'on est libre, mais pas vraiment. Voilà, c'est ça la question que je me pose. Ensuite, la question de artiste, oui, c'est-à-dire que on peut rentrer la bande dessinée dans le champ des arts en général, c'est du dessin, c'est du graphisme, c'est de la création du moins. Je dirais que je suis créateur plutôt qu'artiste, parce qu'artiste, il y a une espèce de jugement de valeur. C'est un art mineur peut-être, en tout cas c'est un art populaire. C'est quelque chose qui appartient à la fois à la culture de masse, parce que moi, mes albums, ils sont lus, et mes dessins animés, ils sont regardés par des grandes quantités de gens. En même temps, j'essaie de le faire tout seul, à la main. C'est pas une production industrielle, comme il peut y avoir dans l'entertainment, dans le business de la culture. C'est entre les deux. Donc, c'est un peu de l'artisanat, parce que voilà, je suis là avec mon petit crayon, je me mets des taches d'encre sur les doigts, je me lève en caleçon à 1h du mat. Voilà. Et en même temps, il y a des gens qui rient, qui sont émus, qui sont étonnés par ce que je fais, comme dans le rapport qu'on peut établir avec une œuvre d'art. Mais bon, voilà, je suis à mi-chemin entre le journalisme, le commentaire, l'art, la création, ce qui fait qu'en fait, ça ne sert à rien de définir trop ce que je fais.
Merci.
Merci, Kali. Je vous présente maintenant Marlène, qui va poser la dernière question de cette séquence.
Bonjour. Où trouvez-vous l'inspiration? Y a-t-il des moments où la page blanche vous hante?
C'est une question que vous posez qui est très cruelle pour moi en ce moment, parce qu'en fait, je dois faire le long métrage Silex and the City, un dessin animé pour le cinéma, et donc je dois écrire pour la première fois un scénario long, parce que moi, mon dessin animé Silex and the City, c'est à chaque fois, ce sont des épisodes de 3 minutes, donc c'est facile, ça, je sais être concentré, c'est un peu la blitzkrieg, on balance toute la purée tout de suite, et puis on se marre, c'est très intense. Là, il faut développer très longuement. Et bien, figurez-vous que ça fait 2 mois que je devrais avoir commencé, mais largement ce scénario, je n'arrive pas à écrire une ligne. C'est probable, en fait, c'est une des raisons principales pour lesquelles je tousse la nuit, je pense. C'est parce que je n'arrive pas à commencer ce long métrage. Donc oui, bien sûr, je le connais, et de toute façon, à chaque fois que je recommence un album ou un truc un petit peu au long cours, c'est toujours une montagne à gravir. Et à partir du moment où je n'ai pas commencé, c'est vraiment problématique. Je me dis que j'y arriverai jamais. L'expérience montre, a posteriori, c'est que en général, j'y arrive. Mais là, comme c'est un long métrage que je n'ai jamais fait, je ne peux pas me référer à d'autres moments où j'y arrivais pas, et puis finalement, j'y suis arrivé. Donc, mais j'ai encore un petit peu d'espoir. Voilà ce genre de questions. Mais ensuite, j'essaye quand même.
Merci. Merci Marlène. Maintenant, je vous présente Balthazar qui va animer la prochaine séquence de votre entretien. Balthazar, c'est à toi.
Merci Sarah. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Donc notre prochaine séquence s'intitule « Dessin et société ». À travers votre travail, vous semblez souvent avoir un propos, notamment en ce qui concerne la société. Vous commentez l'actualité, vous contemplez les cultures. Ainsi, nous avons souhaité savoir quel lien vous voyez entre le dessin et la société. Donc on commence tout de suite avec une première question de Catherine.
Dans le classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières, la France ne se trouve qu'à la 33e place. Le fait qu'elle n'est pas tout à fait en tête correspond-il à votre vécu?
Alors moi j'ai été dessinateur de presse longtemps, c'est vrai, pendant presque 15 ans, et je ne le suis plus tellement. C'est-à-dire je ne commande plus l'actualité parce que j'en avais ras-le-bol de devoir tous les matins regarder les infos, trouver une blague forcément, ce n'était pas quelque chose dont j'avais envie forcément en sortant du lit. Et donc je m'en félicite, je suis content de commenter l'actualité un peu à distance, d'utiliser des choses qui se passent dans Silex and the City, dans 50 nuances de grec, mais en les transformant, soit à l'époque de la mythologie, soit à l'époque de l'âge des cavernes. Alors ensuite, je connais bien effectivement ce métier de dessinateur de presse, et c'est sûr qu'il y a des pressions qui sont plus ou moins visibles, plus ou moins tacites ou implicites par rapport à ce travail-là. On sait bien qu'il y a des sujets délicats, c'est comme partout hein, dans le monde. Je pense qu'il n'y a pas un seul pays du monde qui n'a pas ses tabous. Mais en France, on a vu quand même, vu qu'il y avait eu les attentats à Charlie Hebdo et cette pression-là autour des questions religieuses, que par exemple, ça c'était effectivement un sujet problématique. On n'a pas beaucoup de censure politique en France. À vrai dire, avant c'était le cas, dans les années 60, 70, même 80. Maintenant, en fait, les hommes politiques se sont rendus compte, depuis il y avait les guignols de l'info sur Canal+, et ce genre de choses, que la communication politique moderne, c'était d'accepter qu'on se moque de soi, et au contraire, il n'y avait pas de mauvaise publicité. Il valait mieux être dépeint comme une espèce de gros débilos et de se faire insulter jour après jour plutôt qu'on ne parle pas de soi. Donc les gens étaient contents qu'on se moque d'eux, qu'on fasse des dessins d'eux. C'est-à-dire pour un homme politique, un jeune député, d'avoir un dessin contre lui dans un journal en France, c'est déjà une forme de gloire, parce qu'avant, on ne parlait pas de lui. Donc déjà, il y a son nom imprimé dans le journal. Et donc, il n'y a presque jamais de procès, sauf certains trucs où on fait vraiment un dessin sur Emmanuel Macron, nazi, pédophile. Il y a deux, trois choses où c'est borderline, et encore, parfois les gens se contentent juste de protester. Mais là où, par contre, il y a de la censure, et c'est un petit peu plus vicieux, c'est que... les grandes entreprises ont des services juridiques très 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 compétents qui n'hésitent pas à passer des heures et des heures et puis à engloutir n'importe quel argent pour ne pas qu'on dise du mal de leur marque, ne pas qu'on dise du mal de leurs dirigeants. Et alors ça se joue beaucoup sur la loi sur le copyright. Donc est-ce qu'on peut parodier McDonald's, L'Oréal ou Total dans un dessin, ou est-ce qu'ils vont dire justement non, c'est de la diffamation, c'est de l'insulte. Et eux par contre, ils sont un peu durs à cuire. Ne parlons pas des GAFA, Google, Amazon, etc., qui eux, en plus, ont tous les moyens numériques de pression et de censure, en plus de la censure institutionnelle de leur juriste, quoi.
Merci, monsieur.
Merci, Catherine, pour ta question. Ensuite, nous avons une question de Frédéric.
Merci, Balthazar. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Vous avez beaucoup dessiné pour la presse, mais vous êtes également scénariste, par exemple. Vous avez fait des albums, des livres et des dessins animés. Percevez-vous une unité dans toute cette variété? Et y a-t-il pour vous des thèmes qui reviennent souvent?
Oui, je pense que c'est même angoissant. C'est-à-dire que les dessins que je faisais quand j'avais 7 ou 8 ans et que j'imprimais au boulot de mes parents, comme ça que je photocopiais, que je vendais à mes copains en classe, ressemblent énormément aux dessins que je fais maintenant à 44 ans. Ce qui fait qu'à la fois, j'ai pas eu beaucoup de marge de progression. Je continue à rire des mêmes choses, à dessiner un peu de la même façon. Alors évidemment, il y a un peu de changement. Mais malgré tout, le fondamental est là. Alors à la fois, c'est rassurant en me disant, oui, je me suis pas perdu, je reste moi-même. Et inquiétant parce que j'aurais peut-être dû ouvrir à d'autres choses et faire d'autres choses. Il y a effectivement toujours ce goût pour utiliser le monde qui nous entoure. C'est pas de la pure fiction. Je fais pas des histoires... avec des dragons dans l'espace, avec des serpents dans l'avion, je parle des choses qui nous entourent dans la société, dans la politique, les enjeux, puis parfois un petit peu plus intimes, dans les familles, les choses comme ça, les histoires entre les parents et les enfants, dans les couples, parce que c'est quand même marrant. Donc ça, c'est un point. Et puis l'autre point aussi, c'est que c'est extrêmement lié au langage, mon travail. C'est-à-dire que c'est des dessins qui sont pas des dessins extrêmement sophistiqués. C'est des personnages avec des gros yeux, des grosses bouches, un peu genre les Simpsons. Ce sera pas des dessins comme Bilal, comme tel ou tel, comme Moebius, comme tel ou tel grand dessinateur, ou Sempé, qui sont des gens éblouissants. Moi, ce sera des dessins bricoler un petit peu à ma façon, mais par contre les textes sont ciselés, chaque mot est pesé, et puis ça joue beaucoup sur les doubles sens des mots, les petits changements qu'on peut faire. Et en fait, il suffit de regarder l'ensemble des titres de mes séries, c'est toujours des espèces de parodies de choses qui existent. Silex and the City pour Sex and the City, La planète des sages pour La planète des singes, Platon Lagaffe pour Gaston Lagaffe, 50 nuances de grec, Da Vinci Digicode, etc. Donc il n'y a pas vraiment de limite à ce genre de conneries. Il y a une raison, en fait, il y a deux choses. Une raison très objective qui est que, en fait, les lecteurs, quand ils arrivent dans les librairies, ils regardent toujours ce qu'ils connaissent déjà. On le voit bien, d'ailleurs, sur les propositions qu'on a quand on va sur Internet, qu'on allume son ordinateur ou sa tablette, le moteur de recherche, le processeur de votre machine a déjà identifié tous les sites sur lesquels vous étiez connecté. Et donc, si vous ouvrez votre ordinateur et que vous voyez des photos de masseuses ukrainiennes à poil, on sait à peu près ce qui s'est passé dans votre historique les semaines précédentes. Et donc, de la même façon... pourquoi je dis ça? Non, mais de la même façon... De la même façon, moi j'aime bien justement utiliser ces trucs de... pour attirer l'œil des gens dans les librairies, ils verront « Ah oui, Sex and the City, ah non, Silex bon. !» Et donc ils vont vers l'album, déjà c'est une première chose, donc c'est un peu un coup commercial et marketing, premier truc. Et deuxième truc, si on a une réflexion un peu plus élaborée sur le truc, c'est que j'utilise effectivement ces espèces d'icônes de culture pop, de grosses cultures de masse, un peu dégueulasses, dont on nous gave quand même pour l'essentiel. Il y a des choses que j'adore, hein, Gaston Lagaffe et tout, mais bon, souvent c'est des espèces de séries. Ça permet de dire moi je peux en faire ce que je veux et je peux m'essuyer les pieds sur tous ces produits marketés dont je me fous.
Okay. Merci pour votre réponse.
J'aimerais trop longue, je crois.
Non, c'était bien. J'aimerais bien maintenant vous demander une question. Bon. On imagine que le fait de mener à bien une publication, tel un album ou un livre, vous prend beaucoup de temps et d'énergie. Quelles caractéristiques cherchez-vous dans un projet qui vous motive à l'entreprendre ?
Le changement, en fait, parce que moi, j'aime pas trop la répétition. Donc, en fait, j'aime bien les trucs très différents. Ce qui fait que parfois, c'est un petit peu exagéré et que j'accepte trop de choses. Donc là, je vous ai parlé de ce scénario que je dois écrire. Mais je dois aussi, là, on m'a proposé au Jardin des Plantes de Paris, là où il y a le grand parc zoologique, de faire un certain nombre de dessins parce qu'ils vont avoir des nouveaux animaux qui vont rentrer dans leur parc d'animaux. Donc, ils veulent faire un truc où moi, je vais faire des petites fiches, des petites BD sur ces nouveaux animaux, comme ça, qu'ils mettront dans le zoo. C'est marrant, j'ai jamais fait ça. Je trouve ça hyper sympa d'avoir une carte pour pouvoir aller dans le zoo quand c'est fermé. Voilà. Bon, j'ai une expo au Louvre, au musée du Louvre. En ce moment, j'ai 6 pages de Silex and the City pendant un an avec une grande affiche sur la façade du Louvre avec mes dessins, ce qui est quand même complètement délirant. Il y a Jules Silex and the City, puis à côté, Michelangelo, quoi. Donc, ma mère est contente. Et puis, pour Michelangelo, qu'il ait la chance de me côtoyer, vous voulez dire. Et puis aussi, par exemple, la semaine dernière, j'ai passé toute une journée avec le Paris Saint-Germain, le club de foot. On leur a offert, parce que donc je suis aussi scénariste de Lucky Luke, et le dernier Lucky Luke que j'ai publié, c'est Lucky Luke, un cow-boy à Paris. Et donc à Paris Saint-Germain, évidemment, donc on a fait une espèce de petit Noël des joueurs. Et donc là, c'est pour ça que je suis un peu malade aussi, parce que j'ai passé des heures au bord du terrain à regarder l'entraînement par moins 15, sans bouger. Et donc on a fait des photos avec Neymar, Mbappé, machin, et puis l'album, donc histoire de faire de la promo pour le... Voilà. Tout ça n'a rien à voir entre le Louvre, le PSG et le zoo. Enfin, si, remarquez, il y a 2-3 liens. Mais je vous laisse les deviner.
Merci beaucoup pour votre réponse.
Merci Frédéric pour tes questions. Ensuite, nous avons une question de Mathias.
Merci Balthazar. Avez-vous parfois peur de blesser quelqu'un, par exemple quand vous faites de la satire? Et y a-t-il des thèmes qui vous semblent plus délicats à traiter que d'autres?
Évidemment, il y a des thèmes plus délicats à traiter que d'autres. C'est ceux que j'ai eu le plus envie de traiter, a priori, justement. Et j'ai une passion pour les sujets où on me dit « Non, non, c'est presque impossible, sous le trait de l'humour, ça va être compliqué. On ne peut pas vraiment faire un truc sur les religions. On peut pas... Le conflit israélo-palestinien, non, il vaut mieux éviter. La pédophilie, vous êtes sûr que vous voulez faire des blagues là-dessus? Oh, et puis cet épisode sur le cancer, je ne suis pas sûr. » Bon, et en fait, si, moi, j'adore faire ça à ma façon. Je ne suis pas frontal, en plus. Je n'ai pas un humour frontal, j'ai un humour très indirect. Je change un mot, je décale une situation. Donc, j'arrive à faire passer des choses un peu difficiles. Traiter à la manière coup de boule, peut-être ce serait plus compliqué. Ensuite, je réfléchis assez peu en amont à savoir si je vais blesser quelqu'un ou quoi. Parfois, c'est des réflexions que j'ai pu avoir a posteriori en me disant « Ah là, peut-être j'ai un petit peu exagéré avec ce dessin. » Mais en fin de compte, c'est quand même rare parce que mon tempérament n'est pas totalement punk. Bien, même si au fond, en fait, moi, la façon dont j'ai été éduqué et les valeurs, je pense, enfin, en tout cas, ma manière de fonctionner, c'est que il n'y a rien qui faille absolument vénérer, qu'il n'y a pas d'autorité à laquelle il faille se référer, qu'on est soi-même la source, je dirais, de ses propres interdits moraux, qu'il n'y a pas quelque chose qu'on m'aurait plaqué, qu'on m'aurait dit non, ça c'est pas bien de le faire parce que. Et puis pas d'explication. Moi, je suis assez rationaliste, et puis pragmatique. J'adore les gens, en fait. Un des sujets, c'est ça. C'est aussi mon travail dans l'humour. Je pense que ça vient aussi du fait que, en fait, j'aime bien faire une blague et que les gens se marrent. C'est un de mes plus grands plaisirs. C'est ça le sujet principal. Pas que les gens aient envie de m'éclater une batte de baseball sur la tête. Donc, finalement, bon, du coup, on s'arrange.
Merci.
Merci Mathias. Et avant de boucler cette séquence dessin et société, j'aurais une dernière question à vous poser. Donc nous avons vu que vous commentez l'actualité, les sociétés. Donc est-ce que avez-vous un message en particulier que vous souhaitez faire passer sur cette antenne?
Alors, je sors ma petite liste. Non, c'est difficile, à vrai dire, d'avoir un message. Voilà, moi, j'aime bien qu'on m'aime. Donc, lisez mes livres, aimez-moi, écrivez-moi des mails. Ensuite, évidemment, je suis très pessimiste. Donc, j'ai vraiment l'impression que la marche du monde court vers l'abîme, que de toute façon, on est déjà mort. Alors je dirais, moi j'ai une devise d'une certaine façon, souvent dans les émissions de radio, de télé, les médias, ils aiment bien que les gens aient, qu'ils poussent, qu'est-ce que vous diriez, c'est quoi votre formule ou quoi, et donc en fait j'en ai une moi qui marche pas mal, c'est un proverbe tunisien en fait, qui est etrak men denyak bel etrak men nek, ça veut dire, ris de la vie avant que la vie ne rie de toi. Donc voilà, mon message, amen.
C'est très beau, merci beaucoup Jules. On enchaîne maintenant sur notre dernière séquence qui sera animée par Sophie.
Merci Balthazar, bonjour monsieur. Pour terminer, nous aimerions aussi, compte tenu du fait que c'est notre année finale, d'examen final, pouvoir poser des questions à l'historien que vous êtes. Et c'est Dan qui commence.
Merci Sophie. Si j'ai bien compris, votre premier métier était d'enseignant d'histoire chinoise. Ce siècle sera-t-il chinois à votre avis?
Ah bah c'est vrai que... À la fois, moi, j'aime bien les Chinois, et puis ils cassent les pieds de pas mal de monde. C'est-à-dire, j'étais en Chine il n'y a pas très très longtemps, et ils ont quand même... c'est à la fois le problème et la solution, la Chine, hein, parce que, bien sûr, bon, ils ont la démographie qu'on connaît, le développement économique qui fait que c'est quand même une espèce de char d'assaut lancé sur une piste de ski, et on ne sait pas comment ça peut s'arrêter. Et en même temps, et ça c'est le paradoxe, la dimension autoritaire et dictatoriale de la Chine fait que s'ils décident que 100% des voitures doivent être électriques après-demain, eh ben 100% des voitures électriques le seront après-demain. Il n'y aura pas de gilets jaunes à Pékin. Ils finiront dans la pâtée pour chien. Donc en fait, ce côté-là ultra-autoritaire fait que le fait de pouvoir mobiliser une population d'1,4 milliard de personnes par la terreur, peut-être qu'effectivement, cette espèce d'entraînement fou de l'humanité peut trouver une espèce d'encadrement. Mais en même temps, c'est au détriment aussi de la liberté. Le voyage que j'ai fait en Chine l'an passé, je me suis retrouvé, dans une super soirée à dîner avec le président Xi Jinping, à qui j'ai filé mon album. C'était un peu un putsch diplomatique hein, de lui filer La planète des sages en chinois, hein, qui est traduit en chinois, sachant que la grande majorité des dessinateurs d'humour en Chine sont en prison. Heureusement que j'avais un espèce de parapluie officiel au-dessus de moi, parce que sinon j'aurais peut-être pas osé faire ce genre de blague. La Chine, ouais. Peut-être par sa cuisine, nous sauvera.
Merci, monsieur.
Merci, Dan. Maintenant, nous passons à la question de Kathleen.
Bonjour, merci, Sophie. Alors, comment le fait d'avoir étudié l'histoire influence-t-il votre manière personnelle de voir le monde, et notamment vos points de vue sur la société qui existe actuellement?
Alors, moi, je me nourris de tout ce que je connais et de tout ce que j'ai fait pour mes albums, à la fois de mes histoires personnelles, d'enfance, des conneries que les gens disent au café, en fait, quand ils discutent entre eux ou dans le métro, de ce que j'entends dans les publicités à la télé, et évidemment, ce que j'ai étudié en histoire. Et effectivement, c'est un fond très, très, très riche de personnages, de situations, de costumes, de décors, de références. Et donc, je l'utilise massivement. Mes deux principales séries en ce moment, Silex and the City et 50 nuances de grec, puise en permanence dans ce que j'ai appris en histoire. Ensuite, y avait un truc intéressant dans votre formulation que j'ai un peu perdu de vue, mais redites-moi votre question, la fin.
Vos points de vue sur la société qui existe actuellement, comment l'histoire, vos études d'histoire l'a influencé?
Oui, voilà. Bon, non, en gros, j'ai répondu.
Merci beaucoup.
Okay. Merci, Kathleen. Maintenant, nous passons ensuite à la question de Tobias.
Merci, bonjour. Certains pensent que le monde progresse. Ainsi, par exemple, Stephen Pinker constate que d'un point de vue statistique, l'humanité n'a jamais connu d'époque moins violente. D'autres sont moins optimistes. Vous, pensez-vous que l'histoire a un sens et que l'humanité sera capable de mûrir assez pour ne pas s'autodétruire éventuellement par crise environnementale interposée?
Je ne sais pas qui est ce Stéphane Pinker, mais j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il prend au petit-déj pour être aussi optimiste. Mais non, moi je suis totalement pessimiste et je pense qu'il vaut mieux profiter d'un ou deux trucs autour de nous, là, parce que ça n'a pas duré. Et que voilà, vous avez encore, quel âge vous avez, avec la hausse de l'espérance de vie, allez, une petite soixantaine d'années devant vous pour faire un ou deux trucs cool, donc allez-y, commencez demain. Hein.
Merci monsieur.
Merci Tobias. Nous allons ensuite écouter la question de Cléo.
Oui, bonjour. Le débat public a beaucoup changé avec l'arrivée des médias sociaux. Vous en servez-vous différemment que des médias traditionnels? Quels avantages et inconvénients y voyez-vous?
Moi, pour mon travail, le problème, c'est que quand on faisait des dessins d'actualité et qu'on les publiait, on était les premiers à faire des blagues sur un sujet. Et les gens étaient surpris, se marraient, etc. Là, maintenant, dès qu'il se passe quelque chose, dans moins de 10 minutes, il y a des millions de gens qui font une blague sur le même sujet. Et donc, sur le million de gens, même si ce n'est pas leur boulot, ils finissent par trouver une blague assez drôle et la blague qu'on aurait aimé faire. Et donc, pour le coup, ça nous coupe l'herbe sous le pied. Il y a beaucoup trop de gens qui font notre boulot à notre place. C'est pour ça aussi que je n'aime plus trop faire du dessin d'actu. C'est parce que il y a des commentaires en direct sur Twitter ou Instagram, etc., avec des dessins, des choses comme ça. Donc, je préfère faire quelque chose que je développe au long cours parce que le temps immédiat des médias sociaux n'est pas formidable pour se singulariser. Ensuite, moi, je suis un peu préhistorique. Donc, j'ai mis beaucoup de temps. Moi, j'ai toujours pas Facebook, mais donc j'ai créé, il y a même pas un an, un compte Facebook, un compte Twitter. Instagram et un compte Twitter, de manière à montrer mes dessins en long cours, à faire comme une espèce de vitrine. Mais ça reste quand même très rudimentaire. Donc les gens qui s'inscrivent sur mes sites, c'est vraiment pour savoir à la fois les choses d'actualité, les dédicaces, les machins, et de temps en temps, effectivement, un petit commentaire, un petit truc un petit peu grinçant et mordant sur ce qui se passe. Mais là, par exemple, je suis sûr que je mettrai une ou deux photos de vous à Oslo, et ça va être assez marrant de mettre ce truc en scène. Mais bon, en revanche, je ne mettrai jamais de choses personnelles, et la dimension ultra-personnelle qu'il y a dans les réseaux sociaux, moi, me gêne, parce que j'adore les choses cachées. Alors ça peut vous paraître peut-être un petit peu bizarre en Norvège, où on est dans des pays où on voit à travers les fenêtres chez les gens et où on peut consulter les impôts des gens sur Internet. Moi, je viens d'un monde où, au contraire, le secret a une grande valeur. Ça donne aussi du désir, ça donne du mystère. C'est plus romanesque et ça aussi, c'est des avantages, évidemment. Mais moi, je sais que j'ai été élevé là-dedans et j'aime bien. Et c'était, je crois que c'est Mitterrand, le président Mitterrand aimait bien dire ça, mais je pense que ça vient de Talleyrand. Je ne sais plus exactement qui est au départ de cette phrase, mais c'est « on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens ». Donc en fait, c'est toujours bien d'être un peu planqué. Et donc ça, les réseaux sociaux, c'est pas vraiment le lieu pour.
Merci beaucoup.
Donc merci Cléo. Moi aussi j'ai une petite question. Donc qu'est-ce qu'il faut pour travailler dans les arts vu qu'on est en phase d'orientation maintenant?
Travailler dans les arts, il faut créer quoi. C'est tout en fait. Il y a rien d'autre que ça. Il y a certains domaines qui demandent de la technique et qui demandent un enseignement extérieur, et il y en a d'autres qui demandent juste du travail et de la curiosité et du désir, et c'est souvent un mélange de tout ça. Moi, pour parler du dessin, je sais que j'ai des limites qui viennent du fait que j'ai pas fait d'école d'art, donc j'ai pas appris à faire des grandes perspectives, à faire de l'anatomie parfaite. Il y a des choses, énormément de choses que je sais pas faire en dessin, donc ça me limite. À la place, j'ai trouvé des solutions de contournement. Mais bon, j'imagine que si vous êtes violoncelliste, danseuse de hip-hop ou romancière, c'est pas la même chose. Mais moi, je crois surtout qu'il faut pas trop se fier aux choses académiques. Faut prendre tout ce que faut apprendre de partout, en fait, un petit peu. Non, mais le seul truc, c'est que c'est très difficile de faire à la fois plaisir à ses parents. Qui sont angoissés, qui ont une idée un peu préconçue, qui vous ont qui ont essayé de vous manipuler depuis votre naissance dans un sens qui leur paraissait bien. Ils ont peut-être raison, mais ils ont peut-être tort aussi. En fait, le seul truc, c'est que à chaque moment, de se demander si on n'est pas en train de se raconter à soi-même des histoires, si on n'est pas en train de faire un truc pour des mauvaises raisons. Et en fait, tant qu'on a l'impression d'être à sa place, comme je vous disais un peu tout à l'heure, dans ce cas-là, vous tomberez moins malade. Parce que moi, j'ai toujours été persuadé que quand on faisait un métier ou quand on se dirigeait dans une voie qui n'était pas la sienne pour des mauvaises raisons, eh ben, on tombait malade, on avait l'impression que ça n'avait rien à voir, mais en fait, si, c'était ça.
Super, merci. Notre émission arrive à sa fin et je rends la parole à Sonia qui va la clore.
Merci Sophie. Alors, avant de nous quitter...
Vous allez faire 2-3 punchlines pour vous foutre de moi. Non. Je sais que les émissions radio, elles sont comme ça maintenant. Il faut que vous me... Chut.
On n'a pas tellement l'habitude, vous savez.
Bon, je suis sûr que
on
vous
est
êtes
des novices.
Ça dépend.
On va voir ce que Clotilde va dire. Ouais, alors...
Je suis désolée, c'est pas des punchlines. Désolée.
Alors, Clotilde, depuis le début, elle a pris des notes de ce qui lui a marqué le plus.
C'est pas des punchlines.
durant cet entretien. Du coup, si Clotilde a envie de partager avec nous ce qui lui a marqué.
Alors, j'ai pris soin d'écouter l'intégralité de votre entretien avec tous les élèves. Et j'ai remarqué qu'un sujet qui revenait très régulièrement, c'était la liberté. J'ai remarqué effectivement que, en fait, vous n'êtes pas juste être libre dans votre style de vie, mais vraiment dans tout, dans ce que vous, lorsque vous voulez faire des blagues, dans votre façon de vivre, dans l'intégralité de ce que vous faites. Est-ce que l'on peut considérer ça comme un peu votre conseil, un peu pour ceux qui vous entourent ? Vous aimez vraiment que tout le monde puisse être libre et faire ce qu'il veut ?
Oui, mais alors, et la liberté, évidemment, c'est un concept un petit peu compliqué. Vous avez peut-être étudié ça. Tout le monde beaucoup de philosophes ont réfléchi à la question. C'est la liberté absolue, c'est difficile. C'est toujours une liberté relative, relative à autrui, notamment, avec les fameuses formules de la liberté s'arrêtant là où commence celle des autres. Malgré tout, il y a des espèces d'encadrement. En fait, je pense que la liberté, selon mes goûts, selon mes croyances profondes, elle est tempérée par le plaisir de la relation à autrui. Et donc à partir du moment où ma liberté va entamer ma relation à autrui parce que je vais lui faire du mal ou je vais trop choquer cette personne ou je vais la manipuler ou je vais la dévorer, ces choses-là, ça me limite. Donc effectivement, c'est pas une liberté sans fin, la liberté cannibale, mais c'est cette espèce de fragile équilibre qui change tout le temps. Donc probablement, oui, c'est ça qui me paraît pas mal.
D'accord. Merci.
Merci beaucoup, Clotilde. Alors, nous voulons vous remercier, monsieur, pour avoir répondu à toutes nos questions et avoir accepté de venir ici avoir un entretien avec nous. Nous aimerions aussi remercier l'ambassade de France en Norvège, la direction de l'établissement et les personnels qui nous a tant aidés pour cet entretien, les élèves de la classe de terminale pour leurs questions et vous, chers auditeurs, qui nous ont écoutés. Merci beaucoup encore une fois, Jules, et à bientôt, chers auditeurs, sur LFO Radio pour de nombreuses émissions réalisées par les élèves au lycée français René Cassin d'Oslo.
Maintenant, la pub. I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all